Laudetur Jesus Christus.
Jubilé des artistes en raison de l'hospitalisation du pape, c'est le cardinal Mendoza, le préfet du dicastère de la culture et de l'éducation, qui a prononcé l'homélie prévue par le Saint-Père. Dans ce texte, le pape offre une définition du rôle de l'artiste gardien essentiel des béatitudes et de la beauté. Nous y revenons juste après les titres. La ville de Bukavu aux mains des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise depuis vendredi soir. Nous faisons un point dans l'est de la République démocratique du Congo sur la situation avec notre correspondant à Goma. La guerre dans l'est de la RDC, il en a été question lors du sommet de l'Union africaine ce week-end, mais les dirigeants africains se sont montrés plus que discrets sur la question. Ils ont eu du mal aussi à élire le président de la commission. Nous verrons qui il est. Visite du chef de la diplomatie américaine à Jérusalem, Marco Rubio vient renforcer l'alliance avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou, réaffirmant que le Hamas et l'Iran étaient leurs ennemis communs. Comment enseigner en Cisjordanie, malgré la violence armée quotidienne, la colonisation israélienne et la crise économique? Un défi notamment pour les établissements chrétiens, c'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, ce sont les artistes qui sont à l'honneur ces jours-ci dans le cadre du jubilé de l'espérance. 10 000 artistes et personnes du monde de la culture entière ont fait le déplacement ces jours-ci à Rome. Malgré son hospitalisation en raison d'une bronchite depuis vendredi, le pape François était bien présent via son homélie, puisque c'est son texte qui est lu lors de la messe célébrée hier matin à la basilique Saint-Pierre par le cardinal José Tolentino de Mendoza, le préfet du dicastère pour la culture et l'éducation. Le pape a ainsi offert une définition du rôle de l'artiste, gardien essentiel des béatitudes et de la beauté. Les détails avec Marine Orion.
Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. La révolution des béatitudes qui renverse la logique du monde est aujourd'hui dans les mains des artistes, appelés à créer la beauté, mais aussi à révéler la vérité. Dans une époque marquée par une crise de l'âme, une crise de sens, l'artiste est celui qui doit aider l'humanité à ne pas perdre sa direction, estime François, à ne pas perdre l'horizon de l'espérance. Mais attention, cette espérance n'est pas facile, elle brûle et illumine. Ainsi, la mission de l'artiste est de nous faire découvrir cette grandeur cachée, écrit aussi François. Il nous aide à distinguer si l'appel que l'on entend est le chant des sirènes ou celui de notre humanité la plus vraie. Et à ceux qui pourraient se demander à quoi sert l'art dans un monde blessé, le pape François répond sans embâge : l'art n'est pas un luxe mais une nécessité de l'esprit. Éduquer à la beauté, c'est éduquer à l'espérance.
Marine Orion, et pour plus de précisions sur ce jubilé des artistes, bien sûr, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. Retour maintenant à l'actualité internationale et à la République démocratique du Congo. Bukavu est tombé ce week-end aux mains des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Les premiers éléments du groupe étaient parvenus dans les faubourgs de la capitale du Sud Kivu dès vendredi soir. Le point sur la situation avec Agoma, Augustin Moussangue.
Bukavu, capitale du Sud Kivu, est tombée sans résistance 48 heures après la chute du dernier verrou des FRDC à l'aéroport de Kavumu. Le matin de ce dimanche, des colonnes des militaires du M23 sont entrées dans la ville de Bukavu sous les acclamations de certains curieux. À la tête de cette force, le numéro 2 de l'armée de la rébellion, Bernard Maeshe Biamungu, prononce quelques mots à la place de l'indépendance, le plus grand carrefour au centre de cette ville. Depuis la chute de Kavumu, le gouverneur du site Kivu et toute son administration avaient quitté la ville. L'armée, ses partenaires burundais et la police aussi. La chute de Bukavu donne le contrôle total du lac Kivu au M23 maintenant. À Bukavu, les nouveaux occupants de la ville appellent la population à une collaboration en dénonçant le cachet des ennemis. La journée de samedi a été consacrée à des scènes d'épillage dans la ville de Bukavu. Les badauds et enfants de la rue ont terrorisé la population avec les armes abandonnées par-ci par-là.
Goma, Augustin Moussangue pour Radio Vatican.
Les conséquences de l'avancée des rebelles dans tout le Kivu, des milliers de personnes ont fui vers le Burundi voisin, elles seraient environ 10 000, mais d'autres continuent à fuir. L'Union européenne, en sommet ce week-end à Addis Abeba, a appelé les rebelles du M23 et ses partisans à un retrait immédiat selon ses termes, mais pas de mention explicite du Rwanda. Le sujet divise et embarrasse les États africains qui ont du mal à se mettre d'accord par ailleurs sur le nom du nouveau président de la commission de l'UA. Ils ont finalement élu le Djiboutien Mahamadou Ali Youssif, qui n'était pourtant pas donné favori. Augustine Passilly a suivi pour nous ce scrutin depuis le siège de l'instance panafricaine.
Dès le troisième tour, le candidat malgache est éliminé. Les voix se reportent alors sur le ministre des Affaires étrangères djiboutien, Mahamoud Ali Youssouf. L'ancien premier ministre kényan, Raila Odinga, était pourtant donné favori, après avoir mené une campagne en grande pompe. Il faudra finalement 7 tours de scrutin pour élire Youssouf. Ce diplomate de carrière a lui mené une campagne stratégique. Il maîtrise les 3 langues officielles de l'Union africaine, le français, l'anglais et l'arabe, ce qui lui a permis de s'adresser à des groupes de pays, plutôt qu'à des nations individuelles comme son principal concurrent. Sa religion musulmane le rapproche en outre des 10 États africains membres de l'Organisation de la coopération islamique et des 26 pays qui font partie de la Ligue arabe. Le candidat kényan était trop politisé, trop concentré sur les enjeux nationaux et trop vieux aussi. Beaucoup de chefs d'État ont estimé que Youssouf serait plus bénéfique pour l'Union africaine, m'a expliqué un diplomate qui a assisté au scrutin. Pour l'épauler, le Djiboutien pourra compter sur la vice-présidente algérienne Selma Malika Haddadi. Ensemble, ils devront redonner son efficacité à une instance qui a pour l'heure échoué à mettre fin aux crises traversant le continent, en particulier la guerre au Soudan et les combats dans l'est de la RDC. Addis Abeba, Augustine Passilly pour Radio Vatican.
Les Européens, secoués par les récentes déclarations de l'administration de Trump sur la guerre en Ukraine, tentent de réagir. Une réunion regroupant les dirigeants français, allemands, britanniques, polonais, italiens, espagnols, néerlandais, danois aura lieu aujourd'hui à Paris, en présence du président du Conseil européen et du secrétaire général de l'OTAN. Selon la présidence française, il y a une nécessité pour les Européens de faire plus, mieux et de manière cohérente pour la sécurité collective du continent. Avant même cette réunion, le Premier ministre britannique s'est dit prêt, lui, dans un entretien au quotidien The Daily Telegraph, à envoyer des soldats en Ukraine si nécessaire. Keir Starmer, qui sera sur les bords de Seine aujourd'hui, a déclaré qu'il rencontrerait dans les prochains jours Donald Trump. Le président ukrainien était hier aux Émirats Arabes Unis. Volodymyr Zelensky discute entre autres d'un grand programme humanitaire. Il doit surtout parler de l'avenir du conflit avec un pays qui joue les intermédiaires avec la Russie concernant notamment les échanges de prisonniers. Sur le terrain, Moscou affirme avoir abattu dans la nuit 90 drones ukrainiens, dont près d'une quarantaine au-dessus de la mer d'Azov. Ouverture en France aujourd'hui du procès de Mehdi Nemmouche, déjà condamné à perpétuité en Belgique pour avoir tué 4 personnes au musée juif de Bruxelles, c'était en 2014. Cette fois, il comparaît aux côtés de 4 autres personnes pour avoir détenu au nom de l'État islamique des journalistes français en Syrie en 2013. Ces derniers avaient été victimes de violences physiques et psychologiques, de privation de nourriture et de simulacres d'exécution. Un humanitaire britannique, David Haynes, lui aussi détenu, avait été exécuté. Israël et les États-Unis plus proches que jamais. En visite en Israël, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a affiché avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou un front uni face à leurs ennemis communs, le Hamas et l'Iran. Les explications à Tel Aviv de Julia Galancia.
Entre Israël et les États-Unis, les relations sont au beau fixe. En visite à Jérusalem, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que le Hamas devrait être éliminé, ajoutant que la proposition de Trump pour Gaza était, je cite, « audacieuse ». De son côté, le premier ministre israélien a déclaré que l'Iran était la question la plus importante et que les deux hommes avaient convenu de veiller à ce que le régime des Mollahs ne devienne jamais une puissance nucléaire. Après cette visite de 2 jours en Israël, Marco Rubio se rendra en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, où les pays arabes devraient lui présenter un plan alternatif pour Gaza en opposition à celui du président Trump. Un sommet de 5 pays arabes est prévu sur ce sujet le 20 février à Riyad. En parallèle, les négociations se poursuivent pour la libération des 6 otages restants de la première phase de l'accord, avec l'espoir d'étendre le deal pendant le Ramadan. À Tel Aviv, Julia Canoncia pour Radio Vatican.
Et le cabinet israélien doit se réunir aujourd'hui pour discuter de la suite de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Il a aussi annoncé envoyer des négociateurs au Caire. Dans notre dossier, restons en Terre Sainte, une Terre Sainte martyre, où l'attention est concentrée sur l'enclave palestinienne de Gaza. Or, les écoles de Cisjordanie ne sont pas épargnées par les difficultés du quotidien. Partons ainsi à la rencontre des écoles chrétiennes de Ramallah et de Bethléem, victimes collatérales de la guerre. Un reportage préparé par Marie Norio.
Elles sont en tout 65 écoles chrétiennes disséminées dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Près de 22 000 élèves sont accueillis, dont 8 000 chrétiens, dans ces établissements qui, en ces temps de crise, sont des gardiens du vivre ensemble. Mais les écoles ne sont pas des bulles, épargnées ni par les difficultés de la dernière guerre, ni par 56 ans de colonisation.
Il faut s'organiser, il faut beaucoup de patience.
Sœur Silouane est française, responsable des écoles francophones chrétiennes dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est.
La plupart des élèves, selon les actions de la veille, s'il y a eu des incursions pendant la nuit et des martyrs, l'école est fermée. Si on a construit des checkpoints pendant la nuit, on ne peut pas se rendre à l'école. Un jour, il y a école. Un jour, il n'y a pas école.
Malgré le cessez-le-feu en cours, la guerre n'a pas disparu du quotidien des élèves. Les incursions israéliennes et les fermetures de routes en Cisjordanie se sont même multipliées et l'occupation militaire s'est endurcie.
On ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. C'est sûr que quand on regarde de loin et d'Europe, on nous dit aux informations « bon, la guerre est finie ». Non, mais la guerre, elle sera jamais finie. Ok, les missiles arrivent, grâce au dôme de fer, ils sont arrêtés, ils ne nous tombent pas dessus. Mais quand même, il y a les débris qui sont dangereux, qui nous touchent. Et il y a le bruit, il y a la peur, l'angoisse. Et puis aussi, c'est une guerre économique. Ça a dévasté le pays. La plupart des parents d'élèves travaillent dans le tourisme, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants, les manufactures de bois d'olivier. Du jour au lendemain, ils se retrouvent sans travail.
Les difficultés économiques, les violences innommables à Gaza ou encore la colonisation ne sont pas sans conséquences sur la santé mentale des élèves. Naïla Rabat est directrice de l'école grecque-catholique de Ramallah, une école mixte du patriarcat melkite de Jérusalem.
Il y a tellement de contradictions dans l'esprit des élèves. Ils sentent que tout le monde parle d'eux. Les médias parlent de la situation politique. Mais je sens qu'ils essaient de s'éloigner de tout ce qu'ils voient. La dépression ne touche pas que les élèves ou leurs familles, mais aussi les professeurs.
L'épuisement se lit aussi sur les visages de Samira Alama et Tina Hasboun, toutes deux enseignantes à l'école pour filles de Saint-Joseph à Bethléem.
Des fois, elles disent pourquoi on apprend. Il n'y a pas d'avenir. Ils sont vraiment très touchés par la situation. Quand ils voient surtout les enfants de Gaza, elles ne veulent plus vraiment concentrer pour les matières.
Et justement, comment on trouve les mots pour parler à ces enfants, pour un peu les rassurer?
Oui, on essaie de leur donner un peu d'espoir. Et des fois, on est obligé de sourire.
Les écoles chrétiennes accueillent des élèves chrétiens et musulmans. L'interculturalité et l'interreligiosité sont également de mise parmi les salariés des écoles. Et si la situation politique reste officiellement en dehors des salles de classe, des moments de dialogue sont aménagés dans les emplois du temps.
Dans toute la région du Proche-Orient, il faut apprendre à pratiquer la non-violence. C'est-à-dire comment réagir dans le conflit, ne pas se mettre en colère, trouver des solutions de paix, dialoguer et accompagner l'autre.
À Bethléem, berceau du christianisme mais également de la cohabitation religieuse, l'école Saint-Joseph accueille 800 filles, dont 50% de musulmanes.
On n'a pas des problèmes entre les religions et même en Palestine, parce qu'il y a des chrétiens, les musulmans ont l'habitude de parler avec nous, de discuter, de voir que nous sommes humaines comme eux.
La bande de Gaza comptait, elle, plusieurs écoles chrétiennes avant l'offensive israélienne du 7 octobre, dont deux du patriarcat latin de Jérusalem. Celle de la Sainte Famille a été détruite pendant la guerre. Plusieurs professeurs, élèves et parents d'élèves ont été tués dans l'enclave palestinienne.
Préparé par Marine Henriot, les écoles chrétiennes de Ramallah et de Bethléem entre guerre et crise économique. C'était ce matin le dossier de la rédaction francophone de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations, notamment celles concernant la santé du pape François, sur notre site internet www.vaticannews.va, ainsi que sur notre page Facebook ou notre compte X. Excellente journée à toutes et à tous.